Un moment pour la Terre, une émission donc organisée et préparée par France Nature Environnement 04 aujourd'hui pour nous parler d'un sujet qui va certainement vous passionner. Lisa Cunier, bonjour.
Bonjour Odile, merci beaucoup de nous avoir invités aujourd'hui, comme tous les derniers mercredis des mois. Je suis Lisa Cunier, chargée de mission et d'animation à l'association France Nature Environnement des Alpes de Haute-Provence. Notre association est également la fédération des associations de protection de la nature dans notre département. Nous agissons sur toutes les thématiques, tous les sujets en lien avec la protection et la préservation de la nature. Et aujourd'hui, je suis là pour parler de la biodiversité au sens large du terme, et plus précisément des pollinisateurs, des insectes pollinisateurs. Alors, vous avez peut-être suivi, dernièrement, on a eu pas mal d'événements au niveau national et même mondial. Du 19 au 23 mai, c'était la fête de la nature qui s'est déroulée en France, partout, avec des différentes actions proposées par des organismes différents. Ensuite, le 20 mai, c'était la journée mondiale de l'abeille. Et là, ce qui va nous arriver aussi, c'est le 5 juin, la journée mondiale de l'environnement. Et donc, c'est pour marquer tous ces événements que nous avons voulu vous proposer une émission sur les relations qui existent des fois entre les plantes et les insectes, notamment les insectes pollinisateurs. Et ça nous tenait vraiment à cœur d'en parler, puisque des fois, ces liens entre les espèces, entre le vivant, ça peut avoir une complexité dans le sens que s'il y a une espèce qui disparaît, ça peut également entraîner la disparition de beaucoup d'autres espèces et tout un déséquilibre dans les écosystèmes. Donc, c'est l'apparition de ces liens, l'apparition de ces relations entre les espèces, souvent c'est le résultat de la coévolution, donc ça veut dire de l'apparition des transformations chez les espèces suite à des modifications, suite à leur vie, mais au sens large et long du terme surtout. C'est au cours de cette évolution que les espèces ont développé des caractéristiques particulières. Donc aujourd'hui, nous allons essayer de parler de la science, mais également, je peux peut-être des fois utiliser des mots comme les espèces aiment, veulent, ont décidé de faire quelque chose. Donc, évidemment, ça ne reflète pas une intention de la part de ces espèces, mais des fois, cette façon un peu simplifiée de parler des choses, ça nous permet de mieux comprendre des processus souvent très complexes qui ont lieu dans la nature. Donc voilà, je vous prie de m'excuser si j'utilise des termes qui parlent plus des humains que d'autres espèces végétales ou animales. Et donc en effet, on a commencé par dire ce mot, la coévolution entre les plantes et les espèces. En biologie, le terme de la coévolution, c'est l'évolution en simultané de deux ou plusieurs espèces au cours de laquelle ils développent des modifications, des transformations morphologiques ou autres qu'ils peuvent aussi transmettre génétiquement ensuite et qui font que les espèces changent et s'adaptent pour survivre ensemble. Donc évidemment, qui dit évolution, on dit aussi la sélection naturelle. Donc voilà, là toujours, pas d'intention forcément dirigé de la part des espèces, mais sélection naturelle, ça veut dire que c'est le plus fort, le mieux adapté qui va survivre, et qui va survivre surtout suffisamment longtemps pour pouvoir transmettre ses caractéristiques à sa progéniture. Et donc la sélection naturelle, la coévolution, ça résulte à ça. Donc on sait que les végétaux ont apparu sur notre planète depuis longtemps, depuis un milliard d'années. Mais par contre, les plantes à fleurs existent depuis beaucoup moins longtemps, depuis 170, 180 millions d'années. Et l'apparition, le développement même des plantes à fleurs et des insectes pollinisateurs, c'est déjà un exemple de la coévolution. Ils ont évolué ensemble, ils sont adaptés les uns aux autres. Avant l'apparition des fleurs, évidemment, les plantes se reproduisaient. Mais par contre, elles confiaient le transport de leurs cellules mâles vers les organes femelles à l'eau ou au vent. Donc, il n'y avait pas vraiment de garantie de résultat. C'est, on envoie un peu une bouteille dans la mer et on voit ce que ça donne. L'apparition des fleurs de cette reproduction avec les fleurs, ça a été un grand moment dans la vie des plantes, puisque en effet, ça a permis de rendre la fécondation, la reproduction beaucoup plus réussie. Il y avait beaucoup plus de succès, et donc, enfin, c'est aussi ça la raison de ce grand succès qu'on a aujourd'hui des plantes à fleurs. Aujourd'hui, il en existe 300 000 espèces sur notre planète, et les plantes à fleurs représentent 90% de la biodiversité végétale terrestre. Donc ça a été vraiment beaucoup plus intéressant que juste laisser le vent ou l'eau agir et aider les plantes. Et du coup, bon, qui dit plantes à fleurs dit pollinisateurs, et forcément, souvent, on pense tout de suite aux abeilles. Et aussi, ce que j'ai trouvé intéressant à partager avec vous, c'est l'évolution, l'apparition des abeilles, puisqu'en fait, les scientifiques se sont penchés sur la question. Ils ont voulu déterminer l'âge géologique de l'abeille. Donc, c'est-à-dire comprendre quand l'abeille a apparu sur notre planète. Et ils ont fait une découverte très intéressante. Alors, en fossile, dans l'ambre de Birmanie, ils ont trouvé en fait, un maillon intermédiaire entre une guêpe et l'abeille. Donc, ça leur a permis déjà de se dire, alors, ok, la guêpe, c'était la première qui est apparue au niveau de l'évolution. Son régime carnivore le prouve d'ailleurs, puisque, voilà, au début, c'était je chasse, j'attrape les proies, je les mange. Et en fait, à force de manger les proies couvertes de pollen, les guêpes ont évolué. Et ils ont goûté au pollen, c'était pas mal, le pollen c'est plein de protéines, c'est très riche, et du coup certaines guêpes, pas toutes évidemment, mais certaines ont évolué, et c'est ça qui a donné naissance aux premières abeilles. Et ensuite du coup ça a changé de régime, les abeilles aujourd'hui sont pollinivores, donc mangent du nectar et du pollen, et on pense aussi que au début c'était plus des abeilles solitaires, qui était là et plutôt spécialiste chacune dans son type de fleur. Et ensuite aussi, les abeilles ont évolué à leur tour. Et il y a eu des abeilles qui sont devenues plus généralistes. Ça veut dire qu'elles peuvent aller butiner beaucoup de types de fleurs différentes. Et aussi, c'est après que les abeilles œsosociales ont apparu. Œsosociales, en fait, ce mot, il désigne les abeilles qui vivent ensemble et dont la colonie fonctionne souvent en tant qu'un seul organisme vivant. Donc là, l'exemple, c'est les abeilles mellifères, les ruches qu'on connaît. C'est ce qu'on appelle les abeilles œsosociales. Et donc voilà, au niveau de l'évolution, on a pu, enfin, c'est magnifique, on a pu retracer ces modifications, ces transformations, et du coup trouver guêpes, abeilles solitaires généralistes, abeilles solitaires spécialistes, et ensuite abeilles œsosociales, abeilles mellifères, qu'on, bon, soyons honnêtes, qu'on exploite pas mal aujourd'hui. Et même, alors, en parlant de l'évolution, juste pour le préciser, donc le pollen, on a dit, en fait, ce sont les cellules mâles de la fleur. Le but, c'est de les transporter sur l'organe femelle pour que la fécondation ait lieu. Et le pollen de la plante elle-même, elle en a besoin pour se reproduire. Mais le nectar que la plante produit, qu'il y a dans les fleurs, en fait, la plante, elle n'en a pas besoin pour elle-même. Ça, pour elle, ça n'a pas d'utilité, sauf l'utilité d'attirer des insectes. Puisque le nectar, c'est ce liquide sucré, donc ça, les glucides, bon, le sucre, on comprend bien les insectes, ça attire, les abeilles peuvent le sentir de loin. Et du coup, c'est comme ça que la plante attire les insectes, mais aussi elle leur offre, entre guillemets, une récompense pour le travail que les insectes vont faire pour la plante. C'est-à-dire que attirer par le nectar, par le sucre, les abeilles ou d'autres pollinisateurs, ils vont récupérer le pollen. Donc certains vont manger une partie de ce pollen. Il y aura une partie qui va s'accrocher à leur corps. Et du coup, en allant visiter une autre plante, les abeilles pourront déposer ce pollen sur une autre plante. Donc c'est un peu un échange de services. Donc la plante offre une récompense, mais il faut quand même qu'il y ait un travail qui soit fait derrière. Et genre, c'est important de le dire, puisque le nectar, c'est quelque chose qui demande de grandes, énormes dépenses d'énergie de la part de la plante. Donc vraiment, pour la plante même, produire du nectar, c'est dur. Hein. Mais ça aide, ça assure la reproduction réussie. Et ça, franchement, ça en vaut bien le coup. Donc, je vous propose de faire la première petite pause musicale.
Oui.
En écoutant Le vol du bourdon
de Rimsky-Korsakov.
Tout à fait.
Écoute. Merci, Lisa Cunier. On se retrouve juste après. Lisa Cunier, donc on revient à cette émission sur la coévolution des plantes et des insectes.
Oui, merci. Donc je me suis rendu compte que tout à l'heure, j'ai parlé des plantes, des insectes généralistes et spécialistes. Donc je voudrais repréciser un peu ce que ça veut dire. Alors dans la nature, il y a des stratégies, il existe un grand nombre de stratégies très différentes qui assurent au mieux pour chaque espèce sa survie et sa reproduction. Et donc, c'est là qu'on parle des espèces généralistes ou des espèces spécialistes. Généraliste, ça veut dire que la plante, par exemple, qu'il va offrir son nectar et son pollen à tout le monde qui vient. Le nectar, le pollen seront facilement accessibles. Donc, un grand nombre d'insectes pourront passer sur cette fleur pour récupérer le pollen et le nectar. Par contre, la plante, on ne peut pas du tout être sûr sur quelle plante l'insecte ira ensuite. Donc, oui, l'insecte va récupérer le pollen, mais on n'a aucune idée de sur quelle plante ce pollen va atterrir. Donc, ça veut dire que la plante, elle va avoir beaucoup de passages, mais le taux de fécondation, de reproduction réussie, à la fin, il ne sera pas très élevé non plus. Donc, c'est une des stratégies. La plante vise le côté quantitatif du passage. Je veux avoir le maximum d'insectes qui passent, qui récupèrent le pollen. On va voir ce que ça va donner. Et ensuite, il y a d'autres types de plantes et des insectes. Du coup, on les appelle les spécialistes. Donc, spécialistes, ça veut dire qu'il va y avoir des particularités morphologiques de la plante qui vont rendre le nectar et le pollen plus difficilement accessibles. Et souvent, dans ce cas, on a du coup des espèces d'insectes qui évoluent en parallèle avec ces plantes, qui ont des adaptations pour aller chercher ce nectar et récupérer le pollen. Donc forcément, ça limite énormément le passage. Pas tout le monde peut venir sur cette plante. Je veux dire, quand la tête ne passe pas pour aller récupérer le nectar, eh ben la tête ne passe pas. Par contre, là, on peut être sûr que s'il y a un insecte qui visite cette plante, ça veut dire que ce nectar-là, ça constitue sa nourriture principale. Et donc, quand il ira sur une autre plante, eh ben, ce sera la plante de la même espèce. Il apportera le pollen sur une autre plante, une autre fleur de la même espèce, et automatiquement, enfin, ou presque, ça veut dire reproduction pour la plante. Donc, ce sont des stratégies différentes. Il n'y en a pas une qui est meilleure qu'une autre. Mais en fait, c'est ça qui a fait qu'aujourd'hui, on a des exemples incroyables de ces adaptations entre les plantes et les insectes. Et je voudrais parler de quelques-uns de ces exemples pour qu'on touche du doigt tout ce qui a pu se passer dans la nature. Et un des premiers exemples, donc je vous invite à voyager déjà dans l'espace. On va aller sur l'île de Madagascar. Et également, on va voyager dans le temps, au 19e siècle. Donc, au 19e siècle, sur l'île de Madagascar, on a découvert, au moins on a décrit, une belle fleur, une belle plante avec une belle fleur. C'est une orchidée qu'on a appelée l'étoile de Madagascar. Une belle fleur blanche, très jolie. Donc on a les pétales et en fait ensuite le prolongement des pétales fait un tube qu'on appelle l'éperon chez les fleurs. Et ce tube fait 30 cm de longueur. Il est super long, il est super étroit. Alors, une petite anecdote historique, on a montré cette fleur à Charles Darwin et lui, il a prédit l'existence d'un papillon qui aurait une trompe suffisamment longue pour aller chercher le nectar qui est tout au bout de ce tube. 30 cm, quand même, faut y aller. 40 ans plus tard, en 1903, en effet, on a découvert un papillon. C'est un papillon nocturne de la famille des Sphingidae qu'on a appelé... On l'a appelé Xanthopan morgani predicta. Donc le mot predicta, c'est parce que son existence a été prédite. Et en effet, ce papillon, il a une trompe de 22 cm de long, ce qui lui permet d'aller chercher le nectar dans cette orchidée. Et pendant que lui, il cherche le nectar, il y a les sacs polliniques, enfin, avec le pollen, qui s'accrochent sur sa tête. Et du coup, quand il va visiter une autre fleur, il va polliniser une autre fleur. Donc, il faut se dire que voilà, ce sont vraiment des adaptations qui font que les espèces sont dépendantes l'une de l'autre. Puisque la plante, bon, s'il n'y a pas d'autres insectes qui sont intéressés à aller chercher le nectar au fond des 30 cm, donc il n'y aura pas de pollinisation pour cette plante. Et en même temps, le papillon, alors il faut s'imaginer que si nous, on avait une paille de 2 mètres de long et qu'on essayait de boire de l'eau dans une assiette creuse, il peut aller sur d'autres plantes, le papillon, mais ce sera très dur, ce sera très éprouvant et ça ne garantit pas sa survie. Donc là, ce sont des exemples des espèces qui ont vraiment évolué ensemble et qui, au cours de cette évolution, sont devenues dépendants les uns des autres. Donc, j'appuie ce point pour dire aussi que souvent dans la nature, il y a des relations qu'on ne voit pas toujours, qu'on n'aperçoit pas toujours, mais souvent il y a des espèces, si on a une espèce qui disparaît, on peut avoir l'autre qui va également disparaître puisqu'elle est dépendante de la première espèce. On ne le sait pas toujours, on ne sait pas encore tout, la science continue à se développer, mais en tout cas c'est quelque chose qu'il faut bien garder en tête quand on parle de la préservation de la biodiversité, cette espèce de papillon c'est important, et bah oui, hein, en fait, ça peut être très important pour tout l'écosystème. Un autre exemple que je trouve également très intéressant, c'est la fameuse vanille de Bourbon. Et qui est aussi...
Alors, en quoi c'est intéressant.
Pareil, un petit voyage dans le temps. Dans les années 1800, l'île de la Réunion s'appelait encore à l'époque l'île Bourbon. À un moment, on a réussi à transporter les plants d'une orchidée, une orchidée qui vient normalement du Mexique. On l'a transportée sur l'île de la Réunion pour une production commerciale de la vanille. Sauf qu'on a transporté les plantes, mais les plantes ne donnaient aucune gousse de vanille. Pendant des dizaines d'années, on se posait, ou peut-être pas tout de suite la question, mais les plantes étaient là. Mais pas de vanille. Et c'était un jeune esclave, âgé de 12 ans, Edmond Albius, qui a observé, qui a regardé, qui a étudié la fleur de la vanille et qui a compris comment on pouvait féconder manuellement la fleur pour qu'elle donne les gousses. Bon, cette histoire est aussi magnifique que triste, puisque ça a fait forcément la fortune de ses maîtres. Mais par contre, après l'ébullition de l'esclavage, il a été mis à la rue, où il est mort dans la misère. Je suis désolée pour cette parenthèse, mais voilà, c'est l'histoire qui est souvent comme ça. Alors, quelles particularités elles ont, les fleurs de la vanille? En fait, il y a une membrane qui sépare les cellules mâles de l'organe femelle de la fleur. Si la membrane reste en place et si on ne la soulève pas, il ne peut pas y avoir de fécondation. Ça ne va pas donner de gousses de vanille. Donc, ce qu'on fait aujourd'hui, c'est qu'on pollinise manuellement, on soulève cette membrane pour mettre le pollen, les cellules mâles, sur l'organe femelle pour qu'il puisse y avoir une fécondation. Et il faut le faire très vite puisque la fleur de la vanille reste ouverte pendant une seule matinée et après c'est fini. Donc il faut être à l'affût.
Donc s'il n'y a pas d'intervention humaine, on n'a pas de vanille.
Alors, vous pouvez me demander, mais dans la nature, comment elle a pu survivre jusque-là? Alors, ça a pris aussi beaucoup de temps aux scientifiques. Hein. C'était une longue, longue recherche. On a découvert qu'il y avait une espèce d'abeille. C'est Euglossa viridissima, qui assure la pollinisation dans la nature des fleurs de vanille. Donc là, cette abeille, elle est suffisamment petite pour pouvoir rentrer dans la fleur pour aller chercher le nectar, mais elle n'est pas trop petite non plus. Et du coup, en sortant, il y a le pollen qui se colle à sa tête ou à son thorax, et comme ça, elle peut transporter ce pollen sur une autre fleur de vanille. Alors, on pourrait se poser aussi la question de, mais on peut juste transporter l'abeille, et comme ça, ce sera bon. Pareil, pas aussi facile que ça. Donc déjà, ça a pris beaucoup de temps de trouver quelle espèce pollinise l'orchidée, puisque en fait ce n'est pas évident, il y a du passage, il y a des insectes qui vont visiter la fleur, c'est compliqué de comprendre qui va réellement la polliniser. Pendant très longtemps on croyait que c'était une autre abeille du genre Melipona, mais après on s'est rendu compte que on se trompait et qu'elle n'avait pas les caractéristiques morphologiques nécessaires pour polliniser. Ensuite, on a transporté la plante. Mais on ne peut pas garantir à 100% non plus que si on transporte l'abeille, que l'abeille va survivre. Puisque quand même, entre le Mexique et la Réunion, il y a de la distance et après, il y a une différence. On ne sait pas si l'abeille peut survivre là-bas. Et en plus, dans la nature, en fait, la vanille n'a pas besoin de tant de pollinisation, de fécondation que ça. Pour sa reproduction, les plantes ont aussi la capacité de reproduction végétale, c'est-à-dire sans la pollinisation. Même la pollinisation par les abeilles, ça suffit à la plante pour se reproduire, pour continuer à vivre. Sauf que nous, pour la production commerciale, la pollinisation par l'abeille, ça ne suffirait absolument pas. Donc, dans la nature, il existe des moyens de polliniser la vanille, mais par contre, pour nous, ce ne serait pas suffisant pour en avoir autant qu'on veut en avoir aujourd'hui.
Alors, comment on va faire?
Bah, pour l'instant, on va continuer à polliniser la vanille à la main, d'où, entre autres, le prix de la vanille. Et peut-être qu'à un moment, on va avoir une coévolution de la vanille et de l'humain qui vont amener à la nécessité de la coexistence des deux, l'interdépendance des deux. Ça, on ne peut pas... Moi, je ne suis pas Charles Darwin, j'ai du mal à prédire comment la nature va se développer. Mais en tout cas, il existe ce type d'exemple dans la nature. Un autre exemple que j'aime beaucoup, ça me tient vraiment à cœur de vous en parler. Alors, est-ce que vous avez déjà vu des figuiers en fleurs?
Je ne me rappelle pas, non.
En effet, ce n'est pas un événement ce n'est pas un événement fameux, c'est pas comme les cerisiers en fleurs. Et pourtant, les figuiers en ont des fleurs. Ce qu'on appelle la figue, c'est une poche qui contient à l'intérieur des fleurs. Il y a un petit interstice tout au bout de la figue. Je ne sais pas si vous avez déjà observé une figue, mais il y a un tout petit interstice au bout. Et alors, il existe une guêpe minuscule, qu'on appelle agaonide. Enfin, il y a plusieurs espèces différentes. Ce qui est incroyable, c'est que pour chaque espèce de figuier, il y a son espèce de guêpe. Là, vraiment, c'est l'interdépendance, une espèce, une espèce. Alors, la figue a besoin de cette guêpe pour être pollinisée, pour pouvoir produire des graines. Mais par contre, ce qu'elle va offrir en retour, en tant que récompense à la guêpe, ce sera le lieu de ponte. Donc cette guêpe, elle va rentrer dans la figue. Même il y a des guêpes qui vont abandonner, détacher leurs ailes pour pouvoir rentrer dans la figue plus facilement, puisque c'est vraiment, c'est tout petit hein, l'entrée. La guêpe va rentrer et donc il y a certaines fleurs, elles ne sont pas à la même hauteur à l'intérieur. Donc il y a certaines fleurs que la guêpe va polliniser et sur d'autres, elle va pondre. Ensuite, quand de nouvelles jeunes guêpes vont sortir, vont éclore, se métamorphoser et devenir des guêpes, elles vont sortir de la figue, donc il y aura aussi du pollen qui va se coller sur le corps des guêpes et elles vont chercher une autre figue à un certain stade de maturité de la bonne espèce où à son tour la jeune guêpe, la femelle, pourra pondre ses œufs. Donc pour la guêpe, lieu de ponte, pour le figuier, un moyen qui assure sa reproduction. Et là, ils sont dépendants. Imaginons que, par exemple, suite au changement climatique, la guêpe, elle sort plus tôt ou plus tard, quand il n'y a pas encore de pollen ou quand les fleurs ne sont pas encore ouvertes. Eh bien, il ne peut pas y avoir de pollinisation des figues. Donc, ça met les figuiers en danger. Et en plus, pour la guêpe, vu qu'il n'y a pas encore de fleurs, ça va être compliqué du coup de pondre dans les fleurs, vu que c'est ça sa façon de faire. Et dans ce cas, la guêpe, s'il n'y a pas de figues, la guêpe, elle va disparaître aussi. Là, vraiment, ces deux espèces vivent, cohabitent ensemble, sont dépendantes l'une de l'autre, et la disparition de l'une peut entraîner la disparition de l'autre. Eh bien, notre vie sans les figuiers, franchement, ce serait bien triste. Du coup, en vue de l'état actuel des insectes pollinisateurs dont nous avons tous entendu parler, je voudrais vous proposer d'écouter la deuxième chanson, faire la deuxième pause musicale. C'est la chanson « I will survive », malgré tout. At first I was afraid, I was petrified, kept thinking I could never live without you by my side. But then I spent so many nights thinking how you did me wrong. And I grew strong and I learned how to get along. But now you're back from outer space. I just walked in to find you here with that sad look upon your face. I should have changed that stupid lock. I should have made you leave your key. If I'd have known for just 1 second, you'd be back to bother me. Lord, now go. Walk out. Did you
Et oui, nous voulons survivre, Gloria Gaynor, I will survive.
Et oui, nous voulons survivre, les insectes pollinisateurs veulent survivre aussi. Bon, on sait que les insectes pollinisateurs sont nos alliés précieux et ils sont aussi des acteurs de la sécurité alimentaire mondiale. Nous savons que s'il n'y a plus d'insectes pollinisateurs, s'il n'y a plus de pollinisation, bon, nous n'aurons plus de fruits, plus trop de légumes, plus de miel, bon, évidemment. Il y a aussi d'autres aliments auxquels on ne pense pas au quotidien, mais comme le chocolat ou le café, le petit café du matin, on ne l'aura pas. on sait qu'il y a déjà des situations dans le monde où on doit polliniser à la main, on doit faire tout ce travail de ces petits insectes à la main, et ça prend beaucoup de temps et ça coûte très cher. Donc on a l'exemple en Chine, dans la région du Sichuan, j'espère que je prononce bien, où en fait, depuis les années 1990, les paysans chinois pollinisent à la main les pommiers, car les abeilles ont été tuées par l'utilisation massive des pesticides. Aux États-Unis, on commence à voir la location des ruches au printemps. Par exemple, au printemps, quand les amandiers sont en fleurs, il y a une sorte de migration des ruches du pays entier en Californie pour que les amandiers puissent être pollinisés. Et quand on parle des milliers de ruches, en fait, là, on parle d'à peu près 10 milliards d'abeilles qui sont déplacées à travers tout le pays pour polliniser les amandiers. Donc, bon, forcément, c'est une activité, enfin, c'est un événement qui est très stressant pour les abeilles. Donc, déjà, qui ne se portent pas super bien aujourd'hui. Donc, ça rajoute des conditions défavorables pour leur survie. Même en France, pas besoin de partir ailleurs. Même en France, on a des exemples des syndromes d'effondrement des colonies des abeilles. On a des pertes. Les apiculteurs vont en parler mieux que moi. On a des pertes énormes tous les ans au niveau des colonies des abeilles. Sans parler des abeilles sauvages qu'on surveille un peu moins, mais qui sont également en déclin. Donc, déjà, si on a besoin d'avoir une raison financière, on va dire un peu anthropocentrée, c'est sûr que les insectes pollinisateurs nous apportent, nous donnent beaucoup. C'est un grand service qu'ils nous rendent. Mais en fait, on peut aussi se poser la question de « mais est-ce que la biodiversité a besoin d'avoir une raison financière ou anthropocentrée pour exister ?» Ne pourrait-on pas juste laisser sa place à la biodiversité ? Parce que la diversité, ça signifie aussi la richesse. C'est ça qui rend le monde autour de nous, on peut dire, stable, ça le rend en équilibre, ça le rend très résilient à des facteurs perturbateurs. Et du coup, est-ce que la biodiversité n'aurait pas juste le droit d'exister, ou même des fois, parce que c'est beau, parce que c'est magnifique, parce que tout ce qu'on vient de dire, parce que c'est incroyable, et on peut dire que c'est un miracle que ça existe, mais voilà, est-ce qu'on laisserait pas juste sa place à la biodiversité, même sans forcément penser à tous les services que ça nous rend, ou pas, des fois ça peut être le cas, et ce n'est peut-être pas grave, et on peut peut-être vraiment coexister ensemble, en prenant soin, entre guillemets, les uns des autres, et surtout sans se mettre en danger les uns les autres. Donc là, je voudrais aussi juste mentionner, notre association, depuis 3 ans, travaille sur un projet qui s'appelle la butinerie. C'est un espace qu'on aménage à Villeneuve, au Pont du Pâtre. C'est un espace où on essaie de favoriser la présence de biodiversité. On met en place des aménagements divers et variés. Ça peut être un hôtel insecte, ça peut être des nichoirs, des abris à chauves-souris, à hérissons, des passages à petites faunes, aux petits mammifères, des parterres mellifères, une spirale aromatique, une petite mare. Donc tout ça pour favoriser la présence de la biodiversité, que ce soit les insectes pollinisateurs ou pas que, mais pour laisser sa place à la nature, pour que la nature puisse vivre comme elle doit le faire. Et je voudrais vous parler aussi de quelques événements qu'on va faire à la butinerie ou en lien avec la butinerie. Le mercredi prochain, le 2 juin, vous savez peut-être, ce sera la semaine de la fête des mares. Et du coup, on sera à la butinerie pour faire un petit chantier bénévole autour de notre mare, pour la végétaliser un peu plus. Et également, on va installer et inaugurer le panneau pédagogique de la mare qui nous a été dessiné par une magnifique dessinatrice naturaliste, Cécile Dorgé. Donc, c'est le panneau qui représente la mare, qui montre aussi comment ça a été fait, comment faire une mare chez soi. C'est assez facile. Ça demande un peu de travail, un peu d'effort physique, mais c'est simple. Et du coup aussi, ça montre le fonctionnement d'une mare et la biodiversité d'une mare. Donc nous vous invitons tous le 2 juin de 10h à 15h à la butinerie à Villeneuve, au lieu dit Pont du Pâtre, si vous voulez y participer avec nous.
Pont du Pâtre.
Pont du Pâtre.
D'accord.
Tout à fait. C'est le pont au-dessus du Lauzon, juste à la sortie de la Brianne. Après la sortie de la Brianne, mais techniquement sur la commune de Villeneuve. Ensuite, aussi la semaine prochaine, samedi 5 juin, nous serons à Salagon. Et il y aura un grand événement, rendez-vous au jardin à Salagon. Le programme, il est bien chargé. Il y aura notamment la conférence de Pierre Rabhi sur l'agroécologie. On espère avoir le temps pour l'écouter. Mais nous, on y sera aussi avec notre stand pour parler des pollinisateurs, pour faire des petits jeux, des petites activités autour des pollinisateurs, autour des abeilles sauvages. Ensuite, c'est le dimanche 27 juin. Nous serons cette fois à la Maison de la Biodiversité à la Thomassine, de 14h à 17h, où avec l'association Amapi 04, nous allons proposer une activité, la découverte du monde fascinant de l'abeille, où Thierry Calvo d'Amapi 04 va parler des abeilles domestiques avec l'ouverture des ruches. Il y a une serre pédagogique là-bas où on peut ouvrir les ruches et montrer les abeilles domestiques en toute sécurité à tout public. Et nous, de notre côté, en parallèle, on va faire un atelier sur les abeilles sauvages, puisqu'en fait, on a aujourd'hui, en France, il existe une espèce d'abeille domestique, c'est notre abeille mellifère, et environ 999 espèces d'abeilles sauvages. Donc là, notre objectif, ce sera de les faire connaître un peu mieux au public. Et ensuite, pour nous, le plus grand événement de cet été, ce sera le samedi 24 juillet, de 10h à 15h. Nous allons ouvrir les portes de la butinerie pour tout le monde, pour montrer tout ce que nous avons fait depuis 3 ans. Nous allons inviter aussi nos partenaires, les associations avec qui nous avons travaillé là-dessus. L'objectif, ce sera d'avoir une journée conviviale. On pourra tous se retrouver, tous échanger les idées, où nous on pourra partager notre expérience et peut-être avoir des conseils des autres, puisque nous on prend tous les conseils, toute l'information qu'on peut avoir. Et ce sera aussi l'occasion de passer un peu de temps ensemble à la butinerie et d'observer la biodiversité qu'on peut retrouver là-bas sur le terrain. Voilà, c'est le programme pas mal chargé de notre été, en espérant que les mesures sanitaires nous permettent de mettre en place tout ce qui a été prévu. Mais nous sommes très optimistes pour l'instant.
Merci Lisa Cunier pour cette belle émission encore avec France Nature Environnement, dont vous êtes l'une des membres évidemment.
Oui, tout à fait.
Et donc à très bientôt.
Merci beaucoup Odile.
Au revoir. Bientôt.